Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette, derrière ce micro, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Du 2 au 6 mars prochain, là, ça s'en vient incessamment, c'est la semaine de relâche pour bien des élèves partout au Québec. Une bonne occasion de fermer l'ordinateur, de fermer la télévision, de mettre de côté les jeux vidéo et d'en profiter pour mettre le nez à l'extérieur en famille. Ce serait encore mieux. Et pour vous inspirer en deuxième partie d'émission, Sylvie Rivard, rédactrice en chef du magazine Wix Mag, voilà, je me reprends. Elle sera là pour vous inspirer, oui, avec des sorties, des loisirs aussi, ce que vous pouvez faire pour faire bouger vos petits. Mais d'abord, vous serez probablement d'accord avec moi, le rire, l'humour, c'est bénéfique pour la santé psychologique. Il y a même des études à l'appui. Ça facilite la gestion du stress, la gestion de la douleur. Ça rapproche les gens aussi et ça crée une rupture avec une réalité, un quotidien qui est parfois bien difficile. Les hôpitaux, les CHSLD l'ont compris ça en faisant appel à des clowns thérapeutiques, soit pour égayer le quotidien, la vie des enfants qui sont malades ou encore des personnes âgées qui vivent parfois la solitude. Les clowns thérapeutiques, quels sont les bienfaits? J'en parle avec Michèle Sirois, elle qui est clown thérapeutique chez Jovia. Michèle Sirois, bonjour.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là. On vous appelle aussi Docteur Petit Pas.
Oui, Docteur Petit Pas ou encore Zoé Labelle quand elle va visiter les personnes âgées.
Oui, parce que vous avez probablement deux clowns différents, deux noms de clowns, parce que Jovia propose deux types de programmes. On a d'une part Docteur Clown qui est bien connu du grand public et également La Belle Visite, c'est ça?
Voilà, et on travaille aussi auprès des adultes à l'Hôpital Juif de Montréal. Alors, à ce moment-là, on amène aussi nos personnages de docteurs, parce qu'on est dans un hôpital. Alors, le sarrau et le personnage du Dr Clown est tout à fait approprié.
Dr Clown, c'est pour les enfants, La Belle Visite pour les personnes âgées?
Voilà. Alors, Dr Clown, les enfants et les adultes, et La Belle Visite chez les personnes âgées. Quand Dr Clown est venu au monde en 2002, donc ça s'appelait Dr Clown et on n'avait qu'un seul personnage, donc élaboré à partir de ce qu'on est, hein, parce que le clown vient au monde. En fait, il s'épanouit parce que chacun d'entre nous possède son clown, comme vous, vous en avez un. Je vous regarde, puis je pense qu'il n'est pas mal cute, le clown, en plus.
Merci.
Depuis que je suis arrivée, je le regarde, je lui dis, oh, je lui dis-tu qu'il me semble qu'elle ferait un beau clown? Alors, c'est ça. Donc, on travaille pour faire ressortir ce clown-là, lui donner de la place. Donc, moi, Docteur Petit Pas, c'est une danseuse fébrile, coquette et très féminine. Et on lui a rajouté un sarrau parce qu'elle travaille dans les hôpitaux. Mm-hmm. On s'est rendu compte que quand on allait visiter nos personnes âgées dans les CHSLD, le sarrau pouvait porter à confusion. La plupart de nos âgés qu'on visite ont des troubles cognitifs, oui. 80 % d'entre eux. Alors, on s'est dit, il me semble qu'on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. On va garder le nez rouge parce qu'on est en train de leur dire « je joue ». Je suis un personnage vulnérable et je suis à votre service et ça va être drôle si je suis dans les patates. Mais on a décidé de se vêtir de vêtements issus des années 50, des années 40-50, parce qu'on s'est dit on va faire appel à ce qu'on appelle la réminiscence. Donc, la mémoire cognitive est la première qui disparaît quand on a un trouble cognitif, mais la mémoire émotive est la dernière qui s'en va.
Ouais.
Donc, on a voulu faire appel à des souvenirs heureux, anciens, et on s'est dit, bien, cette période-là, les années 50, nos vieux, nos personnes âgées qu'on visite étaient jeunes, fondaient leur famille, voyageaient, travaillaient. Alors, on les ramène à cette époque-là et de façon émotive, on les ramène dans un endroit qui goûte bon.
Mm-hmm.
Alors, on a décidé d'être des personnages des années 50. On chante des chansons des années 50. On fait la bienséance des années 50 et on est très joliment vêtus en 1950.
Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Michel. On est là pour... on est vulnérable, on est là pour jouer. C'est important d'arriver avec cette attitude-là, que ce soit avec les enfants ou les personnes âgées, de ne pas imposer, de ne pas non plus infantiliser.
Bien, si on parle des personnes âgées, en fait, une des choses qu'on fait, c'est vraiment de maximiser l'autonomie qui leur reste. Alors, notre travail comme clown thérapeutique, la première chose, c'est d'avoir un grand jugement, d'être capable de s'adapter rapidement à la condition de notre clientèle, à ce qui s'est passé avant, à sa maladie physique. Et bien sûr, quand on travaille avec des gens qui ont des troubles cognitifs, il faut être capable de s'adapter à ça, mais de aussi aller chercher ce qu'on appelle en termes des soins infirmiers le résiduel du potentiel de l'autonomie. Mmh. Donc, si nous, on est des personnages vulnérables, c'est donc dire que la personne qui est devant nous sait comment faire, beaucoup mieux que nous. Alors, on lui remet le pouvoir.
Et l'autonomie.
Et l'autonomie, dans la mesure qu'elle est capable de le faire.
Oui. Vous dites l'importance de savoir ce qui s'est passé avant. Avez-vous un contact, que ce soit en milieu hospitalier, avec l'équipe soignante, qui vous disent, bien, OK, aujourd'hui, c'était peut-être pas une bonne journée, elle est fatiguée, la nuit, c'est pas bien passé.
Tout à fait, tout à fait. Chaque fois qu'on débute une journée de travail, on commence d'abord par être, ce qu'on dit en bon français, briefé par une personne de liaison qui est souvent, dans les hôpitaux pédiatriques, une infirmière. Dans les CHSLD, ce sera soit l'infirmière, la récréologue, la personne responsable des loisirs, qui va nous pister sur les choses importantes qu'on doit savoir pour qu'on puisse adapter le plus rapidement possible la rencontre qu'on va avoir avec notre clientèle.
Mm-hmm. Quand on... Bon, ça pourrait être aussi pour les personnes âgées, mais je pense d'entrée de jeu aux enfants qui, parfois, dans leur réalité, dans les hôpitaux, vivent des interventions importantes, mm-hmm. que ce soit en contact avec une seringue, bon, des choses qui peuvent être effrayantes. Êtes-vous invité à participer à ces moments-là?
Oui, oui, oui. Ah oui, même que il y avait un projet pilote qu'on se promène avec des pagettes puis qu'on puisse se faire appeler quand il y avait des cris et des larmes dans une chambre. Oui, tout à fait, parce que le personnel soignant, on n'est vraiment pas en compétition, là, on est en collaboration. Et si l'enfant peut être plus détendu, s'il peut être occupé à autre chose que de mettre toute son énergie sur sa peur et ses craintes, ça va toujours aider l'intervention. Alors, on a développé, même si on s'adapte à chaque patient, on a quand même développé, je dirais, des techniques, des thèmes quand un enfant a peur, par exemple, d'une prise de sang, ce qui est très, très courant chez les petits. Ben oui. Donc, on a ce qu'on appelle la chaîne de la douleur. Alors, le petit prend la main du clown. Ce clown-là prend la main du papa. Le papa prend la main de la maman. Et la maman prend la main du dernier clown, du deuxième clown. Et l'enfant a le droit de crier, mais il doit faire un très beau cri, bien placé, au bon moment. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on lui dit, là, tu te concentres sur ton cri. Et s'il crie bien, alors là, les mains... du clown va serrer les mains du papa et ainsi de suite jusqu'au dernier clown. Et le dernier clown va recevoir un coup de pied au derrière ou va se faire arroser par une seringue à eau ou quelque chose. Alors, pendant qu'on fait ça, l'enfant est concentré. D'abord, un, on lui donne la permission de crier. Deux, il est concentré, il est dans le moment présent. Ouais. Et il va avoir une réaction parce qu'il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui va se faire arroser ou qui va recevoir un coup. Alors, ça aide énormément. Alors, ça, c'est une des choses qu'on fait, mais on en fait beaucoup.
Vous êtes toujours deux clowns à la fois, Michel?
Toujours, toujours. Pour plusieurs raisons, je vous nommerai deux raisons. D'abord, parce que le fait d'être deux, ça augmente les possibilités de l'improvisation. Ça crée tout de suite déjà une hiérarchie. Hein? Il y a un clown qui sait, puis l'autre qui prétend qu'il sait ou qui ne sait pas. Et l'enfant peut adhérer à un des deux clowns, prendre la défense. Alors ça, c'est une des choses, c'est que ça augmente le potentiel de jeu. Et l'autre chose, c'est que c'est pas toujours des milieux qui sont faciles. On le sait, on plonge souvent dans la souffrance, parfois dans l'horreur. Et le fait d'être deux, on peut s'appuyer. Il y en a un qui est plus en forme, ou on peut débriefer après en sortant d'une chambre, ou il y en a un qui est peut-être moins touché par cette situation-là, ou plus en contrôle. Alors, il va prendre le lead du jeu, puis l'autre va mettre le poivre et sel. Alors, c'est très sécurisant de travailler avec un collègue.
Michel, vous avez un parcours très particulier. Vous avez, dans une autre vie, j'imagine, été infirmière, comédienne également, maintenant clown thérapeutique. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, là, Clown d'hôpitaux, c'est du sérieux, c'est édité aux éditions de la semaine. J'imagine que c'est pas tous vos collègues qui ont le même parcours?
Non. En fait, pour être clown thérapeutique chez Jovia, il faut d'abord être un artiste professionnel. Ensuite, il faut avoir fait une formation en jeu clownesque, avoir trouvé notre personnage de clown. Ensuite, on se propose chez Jovia. Si on est engagé, on doit après ça faire une formation pour adapter notre niveau de jeu clownesque au milieu hospitalier et au CHSLD. On s'engage aussi à faire une formation continue de plusieurs heures par année. Je dirais que l'ensemble des clowns sont d'abord des artistes. Plusieurs vont... beaucoup de gens sont issus du monde du théâtre, de la danse. Quelques-uns de nos clowns sont issus du monde du cirque. Alors, mais on a quand même quelques clowns qui ont des doctorats, des vrais doctorats. On les appelle les docteurs-docteurs. quelques-uns ont des maîtrises, plusieurs ont des bacs. Alors, c'est des gens assez scolarisés qui viennent, par exemple, mon collègue Dr Frog, Alexis, avec qui je travaille en pédiatrie et psychologue de et formation
d'abord.
Vous aimez
bien, vous le dites dans votre livre.
C'est mon amoureux. Un clown, c'est mon amoureux. Oui, je l'aime beaucoup, mais... lui, c'est pas réciproque, malheureusement.
Je pose cette question-là parce que vous évoluez dans des hôpitaux avec des médecins, des infirmières. Vous parliez tout à l'heure de ce brief-là. Il faut comprendre de quoi on parle. Il y a des termes, j'imagine. Oui. Il y a l'aspect confidentiel également. Il y a le contact avec les parents qui sont présents aussi. Il faut être formé à ça.
Bien, je suis contente que vous m'ameniez sur la piste parce que j'étais en train de l'oublier. Parmi notre formation continue, on a justement une formation psychosociale. Avec une docteur-docteur, justement, Florence Vinit, qui est aussi docteur, mais docteur Amandine. Et on reçoit une formation, justement, sur les codes de déontologie, les codes d'éthique, sur la base, qu'est-ce que c'est les cancers pédiatriques, les traumatismes crâniens, l'Alzheimer. Bon, on a vraiment une formation qui est très spécifique au milieu hospitalier et à la gériatrie, oui, effectivement.
Mm-hmm. Quel est le but quand vous entrez dans une chambre? Ça ne peut pas être toujours de faire rire, j'imagine.
Le but, c'est d'abord de rentrer en relation. On se sert du clown parce que, comme je disais d'entrée de jeu, c'est un personnage qui est vulnérable, qui veut bien faire, qui veut être aimé, qui est souvent dans les patates et qui a besoin de l'autre. Alors déjà, en partant, pourquoi on met un nez rouge puis pourquoi on vient en clown? Parce que ça ouvre rapidement la porte pour une relation qui est vraie dans l'instant présent. Ce qu'on veut, c'est que le petit patient ou la personne âgée, quand on quitte, et les proches qui sont là, se sentent mieux que quand on est arrivé. Si c'est par le rire que ça va arriver, on va le faire. Si c'est par une confidence, si c'est par un moment tendre, si c'est par... on ne dira pas un mot, on va aller seulement dans le toucher, dans le rythme de la danse, on va le faire. Alors, on est vraiment des artistes qui s'adaptons. Mais bien sûr, le fait d'arriver avec un nez rouge, ça donne souvent envie de rire.
Et des couleurs aussi, dans un monde un peu aseptisé, un peu blanc. On fait quoi quand l'enfant pleure ou la personne âgée refuse de vous rencontrer?
Si la personne âgée refuse de nous rencontrer, on ne va pas insister. À chaque fois, avant de rentrer dans une chambre, on va cogner. Est-ce qu'on peut rentrer? Il y a certains de nos âgés qui ne sont même plus en possibilité de répondre oui ou non. Alors, on va s'avancer doucement. On va y aller par le toucher, par le regard. On va voir ce qui se passe. Souvent, les gens très atteints au niveau cognitif, on va commencer par une musique, par une chanson, par un mouvement. Si on voit que la personne réagit bien, on va poursuivre. Si on voit qu'elle est pas bien, on va respecter tout à fait ça. Mais en général, l'accueil est très, 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 très positif. Un enfant qui pleure, on va rentrer, mais on ne commencera pas à essayer de tout faire pour qu'il arrête de pleurer. On va essayer d'attirer son attention, de l'amener, de faire de la diversion, de l'amener ailleurs, mais toujours avec sa participation à lui.
Mm-hmm. Vous avez toujours les mêmes hôpitaux, la même routine de clown?
On est une grosse équipe. On est 28 clowns à Montréal et à Québec. On a ce qu'on appelle des clowns résidents. Donc, il y a des clowns qui retournent toujours au même endroit 2 à 3 fois par semaine. Et qui vont faire le lien avec les équipes soignantes, le bureau chez Jovia, la directrice psychosociale et le directeur artistique. Et il va y avoir un deuxième clown qui, lui, va venir se greffer à ce clown-là. Donc, les équipes changent assez souvent, mais on a toujours un pivot, si vous voulez, là, quelqu'un, là, un pilier là, qui est là de façon constante. Alors, chaque clown est habilité à travailler autant en pédiatrie qu'en gériatrie.
OK. Oui. Je demande ça parce que vous parliez tout à l'heure que l'important, le but premier, c'est de créer un lien. À un moment donné, ces enfants-là ou les personnes âgées, doivent s'attacher à vous. Ils attendent votre mm-hmm. visite. Ils ont mm-hmm. envie de vous parler, ont besoin de ce ouais. contact-là.
Oui, on voit des gens à la clinique d'oncologie, par exemple, au CHU Sainte-Justine, où c'est des petits qui viennent en externe suivre leur traitement de chimiothérapie et doivent passer comme deux journées semaine à l'hôpital. Et il y a des parents qui ont demandé aux médecins et aux infirmières de changer le jour du rendez-vous pour que ça tombe le jour où les clowns sont là. Parce que l'enfant, il ne vient plus à l'hôpital, il s'en vient voir ses amis clowns. Alors ouais. ça, pour nous, c'est un grand bonheur d'entendre ça. Les petits, on leur dit toujours, je ne veux plus jamais te revoir ici. Les personnes âgées, c'est beaucoup plus touchant parce qu'on les amène, on les voit mourir. Hein. Ils sont dans les CHSLD, c'est la dernière étape de leur vie. Alors, il faut apprendre à reconnaître notre humilité hein, et face à la vie. Et d'honorer leur vie quand ils partent, tout simplement.
C'est intéressant et touchant, Michel, de vous entendre parce qu'il y a toujours près de vous qui flirte là, avec vous à quelque part cette perte-là mm-hmm. qui peut être possible autant du côté de l'enfant malade ouais. que de la personne âgée. On vit comment? On arrive mm-hmm. dans une chambre, elle est vide. Oh. Vous êtes formé à ça aussi?
Oui, puis on a beaucoup de soutien aussi au niveau de la direction psychosociale. On a toujours un numéro de téléphone, une personne qui est disponible pour nous aider. Mais c'est le grand défi de tous les soignants. Hein. C'est certain que nous, les clowns, comme notre travail se fait dans la joie, la légèreté, l'ouverture, la simplicité, ça demande un engagement du cœur et du corps qui est dans la joie. Alors, de confronter la douleur, la souffrance, la mort, je dirais que le clash est difficile, mais je regarde les infirmières, les médecins, tous les autres professionnels. C'est toujours le défi aussi hein, de donner le meilleur de soi, d'espérer le meilleur pour son patient. Puis quand on en perd un, c'est toujours un deuil.
Ouais. Et quand on enlève le costume, le nez, ce deuil-là, il est encore présent.
Oui, et c'est la même chose pour tous les soignants. C'est que c'est important d'avoir un bon équilibre avec notre vie personnelle, avoir des endroits où on peut en parler, échanger, et de se rappeler le sens de ce travail-là et le bien qu'on peut faire.
Mm-hmm. D'autres obstacles ou d'autres défis auxquels vous êtes confrontés en tant que clown thérapeutique?
Je dirais la méconnaissance du métier ouais. encore, parce qu'on sait qu'il y avait eu une grosse crise il y a plusieurs années.
En 2009, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ouais. tout à fait. Et je pense que c'était beaucoup par ignorance de la qualité de ce travail-là et la formation des artistes qui opère dans les centres. Alors, malheureusement, je sens encore une méconnaissance. Et l'idée d'écrire le livre « Clown d'hôpitaux », c'est du sérieux. C'est pas pour rien que j'ai mis ce titre-là. C'était, entre autres et surtout, pour faire connaître, justement, le métier. Et je me dis que quand les gens vont mieux connaître, j'ai lu un article, un professeur d'université qui a décodé mon livre et qui a terminé en disant « C'est à espérer que dans un avenir rapproché, chaque hôpital au Québec ait leur clown et que ces artistes-là soient reconnus au même titre que les autres professionnels. » Alors, je dirais que d'ici 5 ans, là, j'aimerais ça que ça soit ça qui se passe.
ça serait votre souhait, Michel voilà. Serrois. Mais merci beaucoup. Je vous le souhaite. Merci. Et merci d'avoir accepté cette tribune pour justement pouvoir parler davantage des clowns thérapeutiques. Extrêmement touchant comme portrait. Et puis, salutations à vos amis clowns, et à Dr Petitpas et à votre autre dame.
Madame Labelle, oui. Eh bien, merci pour votre intérêt.
Au plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Sylvie Rivard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Wixman, qui est un magazine pour les parents, les préados, afin de les faire bouger. Est-ce que c'est difficile de faire bouger les 9-13 ans?
En fait, le magazine Wix Mag est une initiative, en fait, elle dérive de Wix, qui est une initiative de Québec en forme, qui est une organisation qui fait bouger, qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Donc, on s'est rendu compte, pour développer Wix, que les jeunes de 9 à 13 ans, en fait, c'était environ dans ces âges-là que les enfants commençaient à décrocher de l'activité physique. Mm-hmm. Alors oui, c'est un peu plus difficile. En fait, c'est difficile de les faire bouger. Peut-être pas de les faire bouger, mais de les empêcher de décrocher. Nous, on essaie de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas de l'activité physique.
Et le magazine s'adresse aux parents et aux préados. Donc, j'imagine que dans l'équation, le parent est important pour laisser l'enfant accroché à l'activité physique.
En fait, on parle de parents comme de modèles. Hein. Ce sont les parents qui, ça part d'eux. On peut mettre beaucoup de. En fait, c'est eux qui servent d'exemple aux enfants. Les parents qui bougent vont faire des enfants qui bougent dans la plupart des cas. Mm-hmm. Nous, dans WixMag, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on s'adresse aux parents principalement pour leur offrir des idées pour faire bouger leurs jeunes.
Oui. WixMag, c'est un magazine qui est sur le web.
Oui, uniquement.
Et qui est gratuit.
C'est gratuit, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je pense que vous avez une application aussi.
En fait, voyez, nous, le magazine, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des idées. On a comme, je ne sais pas si on peut parler de relâche tout de suite.
Bien sûr, on est là pour ça.
OK. Donc, on sait qu'il y a une semaine qui s'en vient où les enfants ont congé d'école. Ce qu'on propose, nous, c'est dans le magazine WixMag, on a beaucoup d'activités dans toutes les régions du Québec pour faire bouger les jeunes, pour les enfants et les parents, pour qu'ils puissent bouger ensemble. Il y a beaucoup d'activités extérieures, effectivement, puisqu'on parle de randonnée pédestre, de ski, de raquettes. Et on a pour tous les budgets. Hein. On parle autant on peut parler d'activités où il faut débourser des sous, mais il y a aussi beaucoup d'activités gratuites. Et dans cette perspective-là, WixMag offre des textes, justement, des idées pour pouvoir bouger pas cher. Il va y avoir un texte qui va sortir la semaine prochaine, en fin de semaine, en fait, sur les activités où on peut trouver des activités pas chères dans les municipalités. Mm-hmm. Parce qu'on sait que dans nos municipalités, il y a souvent des patinoires où c'est gratuit, il y a des côtes où on peut aller glisser, il y a même des endroits où on peut faire du ski de fond, de la raquette, et c'est gratuit. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'options là, pour à l'extérieur.
Et j'imagine que pendant cette période-là, qui est la relâche scolaire, les municipalités pensent aux familles qui auront envie de mettre le bout du nez à l'extérieur.
Bien, effectivement, je vais parler entre autres de Montréal, puisque Montréal a un festival qui s'appelle le Festival Montréal joue, et c'est organisé par le Réseau des bibliothèques de Montréal, et il y a toutes sortes d'activités, il y a beaucoup de jeux de société, mais il y a quelques petits, quand on regarde sur dans le site Internet de cette activité-là, il y a des activités, il y a un géocaching qui va se faire la semaine prochaine. Regardez sur Internet, j'ai pas la date exacte, mais il y a plein d'activités dans ce festival-là. À Québec, il y a une belle programmation dans la ville de Québec, là, dans tous les arrondissements, et on les donne ces trucs-là dans le WixMag pour aider les parents justement à trouver des activités. Et vous avez parlé aussi à Marianne d'activités à l'intérieur.
Ouais.
Alors nous, on a une application pour le iPhone. C'est l'application Wix. Bon, vous me dites, iPhone, c'est un écran, on ne bouge pas vraiment, mais dans l'application Wix, ce sont tous des jeux qu'on peut faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais il y a des jeux qu'on fait avec les enfants, avec les oreillers, avec les coussins, il y a beaucoup, beaucoup de créativité dans ces jeux-là. Les enfants aiment beaucoup ça. Et dans le site internet wix.ca, il y a aussi un répertoire de jeux. En fait, c'est dans Opération Wix, il y a un répertoire complet de jeux. Il y a 56 jeux qu'on peut faire. Les parents peuvent télécharger ce répertoire-là. C'est très, très... C'est bien intéressant, puis c'est rigolo. C'est très amusant, c'est très ludique, parce que chez Wix, il faut bouger, oui, mais il faut toujours s'amuser.
Oui, puis en même temps, c'est intéressant d'avoir des activités à l'intérieur, parce que parfois, soit parce que le budget le permet pas ou parce que la température le permet pas, on peut pas sortir. Maintenant, on peut s'amuser parce que vous êtes là pour ça aussi, Sylvie Rivard. Donnez vraiment peut-être des exemples précis d'activités pour les parents qui seraient peut-être un peu pressés ou qui n'ont pas d'iPhone ou quoi que ce soit, mais qui nous écoutent en ce moment et qui ont envie d'avoir des propositions.
En fait, il y a des activités toutes simples. On a eu, pour les parents et les enfants, un défi château de neige.
Mm-hmm.
Donc, je pense que cet hiver, on est gâtés pour ça.
Ouais.
Et on s'habille, on va dehors, on fait un château de neige. On parle de château, évidemment, on s'entend, ça peut être un fort. Les enfants adorent ça, jouer dehors avec les parents. Alors, les parents, on va jouer dehors avec les enfants un petit 5 minutes avant souper, un petit 10 minutes après souper, ou aller prendre une marche, aller jouer au hockey dehors avec son enfant ou avec ses enfants, ou si on a un chien. Ça, c'est vraiment l'idéal. On va promener le chien, on prend le prétexte d'aller promener l'animal pour sortir avec ses enfants. C'est des activités qui sont simples puis mm-hmm. qui sont accessibles.
Est-ce que Wix, Sylvie Rivard, pourrait s'adresser aussi parce que c'est pas tous les parents qui ont la chance d'être en congé en même temps que leurs enfants pendant cette semaine-là. Est-ce que les grands-parents pourraient y trouver leur compte?
Oh, mais tout à fait. Je pense que les grands-parents sont très... On a des grands-parents très actifs.
Hein. Oui.
Je trouve que nos jeunes sont très, très chanceux. Des grands-parents qui sont prêts à de toute façon, pour aller patiner un bel après-midi au parc La Fontaine. Je parle des étangs gelés de l'île de Montréal parce que je connais bien, mais il y a plein d'endroits où ça peut... Bon, ça coûte peut-être... Des fois, c'est gratuit, comme au parc La Fontaine. Des fois, ça peut coûter quelques dollars. Mais aussi, bien sûr, les grands-parents sont invités à s'abonner à Wixmag et à regarder les activités qu'ils peuvent faire avec leurs petits-enfants. On a même une activité pour les enfants avec à mobilité restreinte.
Mm-hmm.
Alors, il y a des endroits qui sont spécialisés pour justement aider à faire bouger les jeunes qui sont malheureusement avec des incapacités.
Ouais, endroits accessibles pour ces familles-là.
Exactement. Donc, on a vraiment beaucoup d'options là. Et le magazine Wixmag, écoutez, vous pouvez regarder aussi il y a une grande quantité. Les années passées, ça peut être, il y a beaucoup d'inspiration dans le magazine.
Et en terminant, Sylvie Rivard, Wixmag est là pour ramener ou mettre l'accent sur l'importance de bouger en famille, faire bouger les enfants. Et vous mettez aussi l'accent sur les bienfaits de l'activité physique chez nos enfants.
Tout à fait. Ça, c'est très important pour nous. En fait, on a eu... On parle d'activités physiques qui sont... Justement, récemment, on parlait beaucoup de TDAH, les difficultés... En fait, parce que je veux le dire, je ne suis pas capable de le dire. Là,
le trouble hyperactif avec ou sans hyperactivité. Trouble de l'attention, pardon, oui. Avec ou sans hyperactivité.
C'est ça. Alors, de plus en plus, on sait que l'activité physique a des bienfaits pour, justement, ça améliore la capacité de concentration, donc ça améliore les résultats scolaires. On a beaucoup, à Québec en forme, ils travaillent très, très fort sur ces dimensions-là. Nous, on met aussi l'accent là-dessus parce qu'on sait que c'est bon pour les enfants. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous, adultes,
certainement.
C'est très bon pour les enfants.
Certainement.
C'est aussi une occasion de créer des liens avec ses enfants. Hein. On est chacun de son côté en ce moment, de plus en plus sur nos écrans.
Je dois vous arrêter, Sylvie Rivard, le temps file, mais merci beaucoup. On retient cette importance d'aller bouger. Merci, au plaisir. Au revoir.